Les orages maléfiques, chapitre 13. Il acheta un billet pour se rendre sur l'île de Sulawesi. La compagnie nationale desservait de nombreuses destinations dans l'archipel indonésien. Ici, il avait vécu des aventures cocasses et inoubliables pendant son séjour. Il savait qu'on ne réalisait ce genre de choses qu'une fois, mais il accomplissait une autre quête. Son devoir de mémoire l'amenait jusque-là. Tout commença par l'avion qui décolla avec 2 heures de retard, dû à un incident technique. La formule cachait mal la vétusté du matériel volant. Parmi les 3 couples qui accomplissaient le voyage, un supportait mal la perte de repères liée à la langue et à l'éloignement. De plus, lors de chaque vol, l'homme et la femme subissaient un véritable calvaire. Ils n'arrivaient pas à dominer leur peur. L'ambiance se tendait au fil des jours. Elle atteignit son paroxysme cette semaine-là. Ils avaient décidé de visiter le pays Toraja, une région habitée par une tribu du même nom, aux coutumes funéraires et à l'habitat peu banal. La peuplade, originaire des contreforts de l'Himalaya, se scinda en plusieurs clans, dont un se réfugia dans ce coin reculé de l'île, alors qu'un autre s'installa sur le lac Toba, à Sumatra. Les toitures de leur maison ressemblaient à un bateau renversé, et le nombre de cornes de buffle accrochées au-dessus de l'entrée indiquait depuis combien de générations la famille occupait le logis. La couleur des cornes signalait à tous le rang social de l'occupant. C'était une façon de hiérarchiser le village. Les femmes travaillaient beaucoup dans les rizières et à la préparation des repas, tandis que les hommes s'occupaient du trésor familial, le buffle. Cet animal occupait une place prépondérante dans la vie de ces paysans. Il représentait ce qu'il y avait de plus important dans la chaîne des êtres vivants en dehors de la famille. Certains pouvaient valoir des fortunes. Et si la nature consentait à faire naître un buffle blanc, c'était le jackpot assuré. Un albinos pouvait atteindre des sommes astronomiques. Chez ces chrétiens animistes, le propriétaire d'un tel spécimen bénéficiait d'une considération particulière, et les plus pauvres revendaient cette manne tombée du ciel. Ils se souvenaient aussi de ses enfants en tenue d'écolier qui marchaient le long des chemins. Il revoyait ses petites filles en jupe rouge et chemisier blanc. Un élan de tendresse le parcourut, puis son regard se voila et des larmes coulèrent. C'était trop dur. Les orages maléfiques lui transperçaient le cœur. Un épisode épique lui revint en mémoire. Ils arrivèrent à Rantepao en fin d'après-midi et voulurent visiter la ville après avoir posé les bagages à l'hôtel. L'éclairage public était quasi inexistant, mais ils aperçurent le long de la route des tuyaux en PVC qui faisaient office de lampadaires devant les habitations. La nuit tomba rapidement sur la cité et en une dizaine de minutes, le noir drapa les rues. Une panne d'électricité les mit définitivement dans l'obscurité. C'est le moment que choisit l'ami surnommé l'éclaireur pour traverser la chaussée. Tout de blanc vêtu, ils le virent quelques mètres devant eux, puis soudain il disparut. Il venait de tomber dans un fossé. Les égouts de la ville s'écoulaient à ciel ouvert. L'éclaireur réapparut. La blancheur de ses vêtements avait laissé place à des taches sombres. Une odeur nauséabonde se dégageait de sa personne. Il prit très mal cet incident, surtout que son genou écorché le préoccupait. Il craignait de contracter une maladie inconnue. Pour exorciser ses démons, il gratta la plaie, dont la surface augmenta rapidement et devint de la grosseur d'une pièce de 2 euros. Heureusement pour lui, après désinfection, la cicatrisation se déroula normalement et il put trouver d'autres sujets de préoccupation. Il ne passa pas inaperçu, des autochtones riaient de bon cœur de sa mésaventure. L'éclaireur et son épouse ne supportaient pas la perte permanente de repères. Éloignés de leur milieu habituel, la moindre contrariété prenait une ampleur insoupçonnée jusque-là. Ils pinaillaient sur le moindre détail et rendaient la vie impossible aux autres. Un épisode tout aussi cocasse prit le relais. Le troisième homme de l'expédition avait la phobie de la tourista. Il redoutait par-dessus tout d'en être victime. Afin d'éviter les désagréments liés à cette diarrhée du voyageur, il absorbait des médicaments à titre préventif, sans aucune prescription médicale. Ce qui devait arriver arriva. Il subit plusieurs jours une constipation chronique. Chaque matin, le guide l'interrogeait discrètement pour savoir s'il avait pu enfin libérer ses intestins. La réponse laconique revenait sempiternellement, avec davantage d'anxiété de jour en jour. L'accompagnateur décida de prendre les choses en main. Il arriva à convaincre leur compagnon de se rendre à l'hôpital. Cela devenait urgent. Ils se dirigèrent vers l'établissement qui ressemblait plus à un dispensaire de brousse qu'à un centre hospitalier. Les Torajas se soignaient eux-mêmes depuis la nuit des temps. Ils n'avaient pas les moyens d'accéder à la médecine moderne. Une pièce unique accueillait une quarantaine de lits, tous occupés. L'ami fut prié de s'allonger sur une literie recouverte d'une alaise. Aucun paravent ne le dissimulait des autres malades. Une infirmière vint lui administrer un lavement à la vue de tout le monde. Il n'était pas à l'aise, mais nécessité faisait force de loi. Il venait de comprendre qu'il n'ingurgiterait jamais plus d'imodium, un antidiarrhétique, avant que le besoin ne s'en fasse sentir. Il errait dans la rue, à la recherche des odeurs et des sensations passées. Un groupe d'écolières passa à sa hauteur. Il fixa les jeunes filles avec insistance, leurs chemisiers blancs attirant plus particulièrement son attention. Il leur emboîta le pas. Elle se tenait par la main, et le spectacle raviva en lui des souvenirs douloureux. Une des fillettes s'aperçut qu'il les suivait, et elles se mirent à courir. Il s'arrêta, les regardant s'éloigner. Elles bifurquèrent, et il ne distingua plus que le paysage. Mais des images invisibles défilèrent dans sa tête. Il sourit, puis fit demi-tour. De retour à l'hôtel, il glissa un billet au réceptionniste afin que ce dernier parte en quête d'un véhicule avec chauffeur pour le lendemain. Il désirait retourner sur des sites qu'il avait visités lors de son précédent séjour. Il dormit mal cette nuit-là. Des fantômes le hantèrent. Il distinguait des silhouettes connues qui tenaient la main à d'autres. Tout se mélangeait dans sa tête. Il se leva au petit matin, la mine défaite. Il se demanda si sa décision de se plonger dans son passé douloureux était pertinente. Chaque fois qu'il sondait sa conscience, la réponse lui parvenait tel un boomerang. L'évidence lui dictait sa conduite. Très tôt, un 4x4 fut mis à sa disposition. La perspective d'une journée dans la montagne environnante lui redonnait le moral. Le conducteur parlait un anglais approximatif. Il souriait tout le temps et faisait montre de bonne volonté. Il comprenait parfaitement ce que souhaitait son client. La nature luxuriante offrait à son regard le plus merveilleux des tableaux. Il longeait des rizières où des femmes, avec de grands chapeaux de paille, s'arrêtaient de travailler à leur passage. Elles pataugeaient dans l'eau stagnante jusqu'à mi-cuisse. Les jupes relevaient, montrant des jambes bronzées et musclées par le labeur quotidien. Elles confectionnaient des gerbes qu'elles déposaient ensuite sur un radeau. Une vieille femme tirait ce fardeau jusqu'à la terre ferme. Il en était ainsi depuis des temps immémoriaux. Le terrain devint plus accidenté. Le chemin s'enfonçait dans un bois, puis contournait un amas rocheux qui servait de cimetière. Ils stoppèrent le véhicule et il s'approcha d'un gros rocher. À environ 2 mètres du sol, un panneau de planches assemblées clôturait la sépulture creusée dans la pierre. 1,50 mètres au-dessus, un balcon avait été aménagé et des statues en bois semblables à des humains surveillaient les lieux. Un sculpteur réalisait des copies les plus proches des personnalités des défunts. Ces reproductions se nomment des totos. Elles ont un caractère sacré et nul ne songerait à porter atteinte à leur intégrité. Elles sont les gardiennes de la tradition. Après un instant de recueillement, ils continuèrent leur route. À la sortie d'un virage boueux, ils aperçurent un groupe d'habitations en contrebas. Une vieille femme, la bouche rougie par le bétel, détourna la tête pour ne pas offrir son visage à la vue des importuns. 2 porcs pataugeaient dans une mare, tandis qu'une 10aine d'enfants nus et le nez morveux s'amusaient autour d'un gros bidon rouillé. Comme une nuée de mouches, ils s'agglutinèrent sur les bas-côtés en réclamant des bonbons. Il distribua quelques friandises qui firent s'épanouir des sourires au milieu de nulle part. Leur bonheur lui fit chaud au cœur. Il embrassa une fillette qui lui rendit son baiser. Le 4x4 redémarra dans un nuage de fumée. Il essuya ses yeux rougis par l'afflux de sentiments contradictoires.